Flavien Neumann, le direct.
Bonjour et bienvenue pour ce direct de Pavillon Nomade. Comme tous les jeudis, nous sommes autour de la table du studio. Aujourd'hui en compagnie d'Alex, de Marine, de Christelle, de Suzanne, de Nicolas, de Julien, de Myriam, d'Eliane et de Pascal à la technique pour accueillir Gérald Métraux qui nous a rejoint aujourd'hui pour cette émission. Gérald est notre invité fil rouge. Et donc, ce que je vous propose à vous toutes et tous qui êtes là autour de la table, c'est de vous saisir du micro et de poser toutes les questions que vous avez envie de poser à Gérald, libre à lui d'y répondre et de vous poser aussi des questions s'il en a envie. Il y a une tradition les derniers jeudis du mois et on ne va pas passer à côté une fois encore, c'est la tradition des questions sous la forme de « si vous étiez ». Gérald Métraux, si vous étiez un pays ?
Je serais la Suisse. Par ça, il faut s'expliquer. Pourquoi la Suisse ? Parce qu'en fait, dans la Suisse, il y a la multiculturalité déjà. C'est-à-dire qu'on a plusieurs cultures, latine, chamanique, francophone, italienne. Enfin, on a un petit pays qui sait faire beaucoup de choses. On a un petit pays qui donne plein de possibilités aux gens qui ont des rêves de les réaliser, contrairement à d'autres pays où c'est un peu plus difficile. Et ici, on a toujours une chance. C'est un pays qui donne une deuxième chance, souvent. Et puis, ça paye, on rigole bien, je trouve. Surtout du côté roman, je trouve, en plus. Moi qui ai beaucoup eu la chance de travailler, soit en Suisse italienne, soit en Suisse allemande, chaque région, elle a ses de magnifiques particularités, puis qu'on s'y sent bien. Alors moi, j'ai eu la chance de voyager, de faire les cinq continents. J'adore partir, mais j'adore revenir. Et revenir, pour moi, c'est revenir en Suisse, parce que c'est ici que, en Suisse, en Valais, dans mon pays, c'est ici que j'ai mes racines et où je retrouve le plus de ressources.
Partir pour mieux revenir, on va peut-être y revenir. Si vous étiez un animal ?
Un chat.
Tout simplement.
Ah, clair. Chat, parce que le chat, il est tranquille. Le chat, il fait ce qu'il veut. Le chat, il dort surtout quand il a envie. Là, je suis exactement comme ça. Et puis, un chat, il s'amuse beaucoup. Il a beaucoup de... Les chats, quand vous avez vu les chats, quand ils sont ensemble, ils n'arrêtent pas de se taquiner, de se marrer. Et puis justement, ils ont ce côté indépendant et autonome. Ils s'installent, ils font leur vie. C'est un peu moins ça.
Si vous étiez une couleur ?
Turquoise.
Ah, je vois Suzanne qui réagit.
Turquoise, parce que j'adore le turquoise, j'en porte beaucoup. Et j'adore voir la mer, j'adore voir les choses. Je dirais bleu turquoise. Donc ça recoupe tous les bleus, mais ça va jusqu'au turquoise. Qui turquoise s'approche souvent un peu du vert même. C'est la couleur qui me fait rêver, c'est la couleur de mes yeux, c'est la couleur des yeux de ma mère. Le bleu, c'est la couleur de l'espoir aussi. Donc voilà.
C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez les yeux bleus, les yeux turquoise. Suzanne, vous aviez envie de réagir à cette couleur, éventuellement ?
Oui, moi, c'est ma préférée. Et ma première voiture était turquoise, c'était une VW Polo. Et je ne sais pas, depuis, j'ai toujours aimé le turquoise. Donc, j'en porte aussi beaucoup. Et puis, mon mari a les yeux turquoise.
Ah, voilà.
Gérald, si vous étiez un instrument de musique ?
Piano. Le piano, c'est le seul instrument où on a toutes les notes sous les yeux. J'en ai joué un petit peu dans ma vie. C'est le meilleur instrument pour apprendre la musique, pour apprendre à la connaître, pour apprendre à la mesurer, à la déchiffrer. Avec un piano, vous pouvez tout faire. Alors, c'est un peu encombrant quand vous vous déplacez, s'il faut se déplacer avec. C'est clair que là, je joue... Dans les concerts que je donne actuellement, je chante et je joue de l'harmonica. Alors, c'est beaucoup plus facile à déplacer parce que ça tient dans la poche. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà.
Est-ce que vous avez un pianiste de référence ?
Oh, un pianiste de référence. Son nom m'échappe actuellement. C'est le pianiste de Buena Vista Social Club. Roberto Fonseca. Voilà.
Merci Julien.
Voilà, lui, je l'ai vu en concert. Et j'étais scotché. Vraiment, vraiment. Alors, voilà.
Julien, vous l'aviez vu aussi en concert hein?
J'ai eu la chance de le voir.
Attendez, oui. Prenez le micro.
Ah. Oui, j'ai eu la chance de le voir. C'était, sauf erreur, près d'Interlaken, par là-bas.
Ah oui, c'est des moments extraordinaires qu'on n'oublie pas. Hein. Suzanne hein?
Vous connaissez le petit jeune qui a passé à The Voice? Je crois qu'il avait 8-10 ans, mais un phénomène.
Pianiste?
Ouais.
Ok, non, je... Non. Non, j'ai pas vu.
C'est malheureusement pas le nom, mais il jouait magnifiquement bien.
Dernier, si vous saviez, si vous étiez plutôt Gérald Métro, si vous deviez vous définir, que diriez-vous?
Indéfinissable. Non, moi, je dirais... pour le peu que je me connaisse, parce qu'on se connaît souvent très, beaucoup moins bien que ce qu'on croit, moi, je pense que je suis un mélange entre la confiance et la fragilité. Donc, pour certains trucs, j'ai beaucoup de confiance en moi, je ne doute pas beaucoup sur certains trucs. Et pour d'autres choses, je suis constamment dans le doute et dans la fragilité, dans le déséquilibre un peu. Donc, voilà.
On va parler de cette fragilité. On va faire une pause musicale. Et vous nous avez amené votre dernier disque, dont on va parler, bien évidemment. Mais la chanson que j'ai choisie n'est pas dans votre dernier opus. Et pourtant, c'est la même année. Et oui, on l'a compris, cette année-là, c'est l'année 1962, c'est l'année de votre naissance, Gérald Métro, et le titre, tout simplement, de votre nouvel album. Un album composé de 11 chansons écrites en collaboration avec Jérémy Kiesling. Des chansons douces, assez intimes, qui parlent de l'enfance, de l'amour et de votre vie. Gérald Métro, une vie incroyable, marquée par un terrible accident à l'âge de 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet accident ?
Alors, mon accident, c'est assez simple. j'avais 2 ans et demi, et puis mon père était chef de gare à la gare de Saint-Branger, c'est le train qui fait le Martignan-Serre, c'est un petit train de montagne. Et puis, en ce temps-là, la famille du chef de gare habitait toujours en dessus de la gare. Il y avait un appartement en dessus de la gare. Et puis, à un moment donné, j'ai échappé à la surveillance de ma mère avec mon frère. On est parti jouer sur les voies du train. C'était en décembre, et puis il y avait de la neige, j'ai glissé, le train est arrivé, voilà. Je suis traîné par le train sur 60 mètres à peu près, puis j'ai perdu mes jambes, et j'ai une fracture du crâne, voilà. Donc, après, la vie, elle a continué, la vie... quand on est petit, quand on est petit, enfant, je pense que l'avantage, c'est surtout qu'on ne se fait pas beaucoup de soucis pour le futur, on est vraiment dans le présent, dans le ici et maintenant. Alors, moi, j'ai fait 1 mois d'hôpital, quand je suis rentré, je me disais pas, tiens, qu'est-ce que j'avais 2 ans et demi. Je me disais pas, tiens, qu'est-ce que je veux faire comme métier quand je serai grand. Je me suis plutôt dit, comment je vais faire pour monter sur la table pour pouvoir manger. Comment je vais faire pour aller dans le lit pour pouvoir dormir. Comment je vais faire pour monter sur les toilettes pour aller aux toilettes. Les trucs de survie, quoi, les trucs de base. Et puis après, oui, alors après, bien sûr, quand vous venez plus grand, plus adulte, enfin moins enfant, on dira. Après, il y a toute la question du regard des autres, de comment les gens nous perçoivent, etc. etc. Mais ça, c'est des questions d'adultes. Et moi, si on peut parler de chance, je veux dire que s'il faut choisir le moment d'avoir un accident, c'est peut-être mieux de l'avoir petit parce que, il y a moins de deuil à faire. Parce que moi, j'ai jamais fait de ski à 2 ans et demi, donc je peux pas dire, le ski, ça me manque. Parce que c'est comme si vous avez jamais goûté du chocolat blanc, vous trouvez que le chocolat noir, il va très bien. Dans ce malheur, moi je n'appelle pas ça malheur, enfin, dans cet événement-là, moi je l'ai eu très tôt dans ma vie, donc j'ai pas eu beaucoup de deuil à faire. Moi j'ai appris à vivre sans jambes. Donc j'ai fait toutes les choses que chacun de nous fait ici autour de cette table et dans le monde, c'est-à-dire je me lève le matin comme vous, je me lave les dents, puis je vais prendre une douche, puis je déjeune. Sauf que moi je dois, quand je dois prendre ma voiture pour venir ici à Monthey, je dois m'organiser différemment. J'ai une voiture adaptée, quand je prends le train, je dois avertir les CFF 1 heure avant, parce que si les wagons ne sont pas accessibles, j'ai besoin d'assistance sur les quais, etc. Donc en fait, on apprend à vivre exactement pareil, mais en prenant des chemins différents pour arriver au même endroit, en fait. Et après, ça devient un réflexe. Moi, j'y pense plus. Les gens qui sont autour de moi dans ma vie, qui gravitent autour de moi et qui sont dans mon entourage, eux, ils s'aperçoivent de ça. C'est-à-dire, moi je dis, on va aller dans tel restaurant parce que je sais qu'il y a les toilettes accessibles. Ce qui n'est pas le cas partout. Alors, eux, ils comprennent après. Mais moi, j'ai déjà toujours ce réflexe-là que je check tout le temps, je vérifie tout le temps. Là, par exemple, vous me dites, est-ce que si je peux venir, oui, c'est accessible. OK, c'est bon, je pourrais venir. Il n'y a pas 50 escaliers pour arriver dans ce studio. Donc, j'ai toujours ce réflexe de m'organiser en amont pour les gestes, qu'ils soient quotidiens ou pas, de ma vie et tout ce que je fais, lorsque je voyage et tout ça. Donc... Je suis un professionnel d'aller en amont des choses pour pouvoir les réaliser, en fait.
Comment on se tient debout quand on a perdu ses deux jambes ?
J'ai pas compris.
Comment on se tient debout quand on a perdu ses deux jambes ?
Alors moi, j'ai marché longtemps avec des prothèses. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai marché avec des prothèses. C'était une façon de faire le deuil, lentement de la verticalité. Puis un jour, j'ai compris qu'en fait, d'avoir des prothèses, c'était ça mon vrai handicap. Parce que j'avais pas d'autonomie, j'avais pas de confort. Et puis c'est un peu une tricherie d'avoir des prothèses. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de jambes. Moi, je faisais ça aussi ça parce que je n'osais pas afficher ma différence. Mais il m'a fallu 30 ans pour comprendre. Après, on comprend. Mais si on savait tout de suite dans notre vie, les choses seraient faciles. Mais ce n'est pas le cas.
Alex, vous avez une question. Prenez le micro. Après Suzanne, je vous donnerai la parole.
Ma question, c'était, je milite beaucoup dans ma vie pour les différences aussi. Et par exemple, quand vous parlez des CFF qu'il faut avertir une heure à l'avance, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour que ça avance et puis que ça devienne... plus facile, plus accessible pour les personnes en situation de handicap?
Alors, moi, je dois avouer que les CFF, honnêtement, c'est génial. C'est vraiment génial. Le travail qu'ils font, c'est génial. à vous appeler. Il y a toujours quelqu'un sur le quai qui vous aide ou pas. Enfin, moi, à 99%, ça marche tellement bien. Ils sont tellement gentils, les gens qui... Et en plus, c'est un service qui est gratuit, ce qu'ils ne vont pas oublier, ce qu'ils ne seraient pas obligés. Mais non, c'est vraiment bien. Et maintenant, avec les nouvelles rames CFF qui sont à deux étages, elles sont à plein pied, de plein pied. Donc ça, ça aide pas mal aussi. Malheureusement, Valais, on n'a pas que des rames à deux étages. Alors, de temps en temps, j'ai besoin d'assistance avec un lift qui est placé sur le quai, où il y a une personne de l'assistance CFF qui vient et qui monte sur le lift pour pouvoir rentrer à niveau.
Oui, il paraît qu'en tout cas, en Valais, on a tous les vieux trains de Suisse.
Ben, on a les derniers vieux trains, mais avant, c'était un. Maintenant, je crois 3 rames sur 5, c'est des neuves. Donc ça commence gentiment à aller mieux.
Suzanne ?
Moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir mis les prothèses ?
Le jour où j'ai décidé d'arrêter de porter des prothèses, c'était le plus beau jour de ma vie. Parce que c'est le jour où j'ai compris qu'en fait, de pouvoir me déplacer en fauteuil roulant, ça m'a donné la liberté, ça m'a donné la liberté de mouvement, ça m'a donné la vitesse de déplacement, ça m'a donné tous les choix d'aller où je veux dans ma vie sans devoir faire attention. Du coup, ça m'a donné vraiment... ça m'a donné la liberté, puis aussi l'honnêteté de me présenter comme la vie m'a fait, ou défait.
Oui, mais en fait, c'est pas votre faute.
C'est pas une question de faute ou de responsabilité.
Ouais, voilà.
C'est une question que, dans notre existence, on vient tous avec des ressources et des faiblesses. Des choses qu'on sait faire ou des choses qu'on sait pas faire ou qu'on sait pas encore faire. Donc on doit vivre avec ce qu'on a et ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a pas encore. Et ben moi, une des conditions du début de ma vie, c'était que je devais vivre une vie sans jambes. Alors j'ai dit je vais m'organiser. Alors, quand on est petit, on pense pas comme ça. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on pense au jour le jour, comment je vais m'en sortir, est-ce que je pourrais aller à l'école avec les copains, est-ce que je pourrais aller jouer au foot l'après-midi avec les potes du quartier, on pense comme ça. Après, moi je voulais faire du sport, je voulais devenir journaliste, je voulais voyager, je voulais être indépendant dans ma vie professionnelle. Avec jambes ou sans jambes, c'est pas ça qui a été décisif. C'était que moi j'avais envie de faire ces choses-là. C'est-à-dire que si je décide ou si j'ai envie de faire quelque chose, je vais essayer de rassembler toutes les ressources que j'ai et toutes les ressources qui sont à ma disposition autour de moi pour essayer d'arriver. Alors j'ai pas toujours tout réussi. Hein. Il y a plein de choses que j'ai ratées, dans lesquelles j'ai échoué. Mais par contre j'ai toujours essayé. Je préfère avoir des remords que des regrets. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire? Je préfère dire, j'ai essayé, j'ai pas réussi, que de dire, j'aurais dû essayer, mais j'ai pas essayé.
Il y a quelques années, le quotidien Le Matin titrait « Gérard Meltro, l'homme aux 1000 vies ». Alors, je ne sais pas si vous en avez eu 1000. En tout cas, vous en avez eu quelques-unes. Vous l'avez dit, journaliste, sportif de haut niveau. Vous avez participé aux Jeux paralympiques d'Atlanta, sauf erreur.
C'est ça, ouais, en tennis, ouais.
En 1996, et agent de joueur de hockey, qu'est-ce qui vous intéresse dans le sport ?
Alors, moi, je suis un peu comme un obélisque, quoi. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que je suis né à 20 mètres, à 30 mètres d'une patinoire. Ma famille était dans le sport. Et puis, tout petit, moi, j'étais un passionné de télévision, de sport à la télévision, je pense que j'aime la compétition surtout. J'aime la compétition pas pour... Moi, on aime tous gagner, évidemment. Mais j'aime la compétition pour essayer de ne pas perdre, en fait, c'est ça. Alors, des fois, on perd. Hein. J'en ai perdu des matchs, j'en ai gagné plus que j'en ai perdu, ça, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup plus appris quand je perdais, c'est marrant. On apprend. Quand on gagne, on ne se remet jamais en question. Quand on réussit les choses, on dit « Ah tiens, c'était facile ». Mais quand on échoue, on doit se dire « Ah mais tiens, pourquoi j'ai raté, pourquoi j'ai perdu, qu'est-ce que je pourrais faire autrement la prochaine fois pour réussir là où j'ai échoué la première fois, la fois précédente ?»
Vous qui êtes un grand connaisseur de hockey, vous avez un pronostic pour la finale ? C'est un peu compliqué pour Lausanne, dire. Mais
c'est pas facile, mais
une remontada est toujours possible.
Bien sûr que tout est possible. Je les ai trouvés un petit peu fatigués le mardi. Non, sérieusement. Ouais. Non, ça, ouais, ouais. Ils étaient un peu fatigués mardi. Alors, il faut savoir que pour les gens qui sont un peu à l'intérieur des choses comme ça, en fait, dans ces finales, Lausanne, ils ont joué beaucoup plus de matchs déjà que Zurich parce qu'ils ont dû batailler ferme. Ils ont été en 7 contre Langnau, en 7 contre
Fribourg.
Contre Fribourg. Et là, étant donné que Zurich a été en 4 et en 5, donc ça veut dire 9, ils ont joué 5 matchs de plus que Zurich dans le même laps de temps. Ce qui fait que la fatigue peut être
Physiquement, c'est quelque chose de phénoménal. Hein. Suzanne.
J'aimerais vous demander, ça a eu un facteur négatif sur votre mental ? Cette histoire de vie pas comme les autres ?
Non, ça n'a pas eu un facteur négatif parce que moi, j'ai vite compris qu'il allait falloir m'organiser différemment. Dès le début, j'ai compris qu'en fait, si je voulais réaliser les choses qui me plaisaient ou dont je rêvais, j'allais devoir opérer différemment. Donc en fait, non, c'était juste une question de point de vue, c'est-à-dire de dire que je vais passer par d'autres chemins. Je devrais passer par d'autres chemins pour réaliser les choses dont j'ai envie. Et puis, c'est ce que je m'emploie à faire chaque jour.
Christelle ? Ah pardon, Suzanne ? Vous voulez encore dire quelque chose ?
Oui, c'est quand même une chance de ne pas avoir été atteint par le mental.
Alors, jusqu'à maintenant, ça a été, mais on ne sait jamais. Hein. Il y a des fois, on peut être fragile aussi. Et moi, je ne suis pas Superman non plus. Hein. Faut qu'on se comprenne bien. Hein. J'ai aussi les jours où j'en ai marre. J'ai des jours où je trouve que c'est trop difficile. Les jours où je n'arrive pas à résoudre une question ou un problème. Je ne trouve pas de solution à quelque chose. Alors avant, ça m'aurait énervé et puis j'aurais vite paniqué. Maintenant, j'attends et puis je laisse venir les réponses. Mais voilà, c'est ça qui, quand je parlais de confiance, c'est d'avoir confiance que des fois, les solutions ne sont pas toujours devant notre nez. Là. Il faut juste attendre un peu qu'elles viennent.
Christelle ?
Alors j'aimerais faire un partage parce que j'ai un grand frère. Et il est né avec une hémiparésie du côté gauche. Et tout comme vous, enfin, il a toujours connu ça. Enfin, il a jamais connu l'avant. Et le sport l'a énormément aidé. Il fait partie de sport handicap.
Okay.
Il s'appelle Loïc Levasseur, voilà. Et je suis extrêmement fière de lui. Et en ayant grandi avec lui, j'ai vu son évolution. Il a fait de l'athlétisme. Il a fait, je ne sais plus comment on appelle ces professionnels, de la rééducation, je ne sais plus comment on a physio, je ne sais plus exactement. Étant petit, il a eu beaucoup de spécialistes à voir et tout. Donc ça me tient beaucoup à cœur. Okay. Et pour moi, c'est un sacré exemple de vie. Voilà, je voulais juste partager ça et...
Merci beaucoup de ce partage, Christelle. Il y a un philosophe français que vous aimez citer, Gérald Métro, c'est Pascal Bruckner, qui a notamment écrit ceci. « La chance est toujours un choix, le pari d'attraper la main tendue par le hasard. » Quelles ont été les mains tendues vers vous, Gérald Métro ?
Alors, si je prends, j'en cite une. Un jour, j'étais à Montréal, j'assistais à un match de hockey. Et à côté de moi, il y a un gars. Puis on commence à discuter, comme ça, je lui dis, vous faites quoi comme boulot ? Ah, il me dit, moi, je suis agent de joueur, je représente tel joueur, vous croyez, là, numéro 24, numéro 26. Je dis, ah, c'est quoi votre métier ? Ah, ben, là, je repère les joueurs, je vais les voir jouer lorsqu'ils sont petits, quand ils sont jeunes, après on fait un contrat, après on signe des contrats professionnels, on négocie des contrats de travail et tout ça, tout, je dis, ah. Et bang, je me dis, mais si ce gars, il était assis à côté de moi et qu'il me raconte ça, ça m'a fait tilt dans ma tête. J'ai dit, mais finalement, c'est vrai qu'en Suisse, ça n'existe pas ce métier. Donc je suis rentré en Suisse et puis j'ai fait ce métier. Mais ça, c'était un truc, mais je peux vous en citer, on peut passer la soirée, je peux vous en reparler. Mais sauf que moi, je ne laisse jamais passer les occasions. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit un truc, puis que une fois dans la même semaine, il y a trois personnes qui me parlent du Liban. Et je ne savais pas où aller en vacances. Je dis, bah, tiens, je vais aller en vacances au Liban. Et je suis allé là-bas, c'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. Ouais, après, j'y suis retourné plusieurs fois. Et voilà, c'est toujours des... Y a jamais... Moi, je dis, il y a une autre phrase que j'aime bien, je dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, en fait. C'est ça. Donc, si je suis ici, bah, ce n'est pas un hasard non plus, bah, par exemple, pour dire.
Nicolas ?
Oui, moi, j'ai une question. Tu as dit une phrase avant qui m'interpelle. Tu as dit, comme la vie m'a faite ou comme la vie m'a défaite. À l'heure actuelle, c'est... Tu dis, tu en penses quoi ? Elle t'a faite ou elle t'a défaite, alors, cette vie ?
Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait... J'aurais pu dire comment la vie m'a construit ou déconstruit. Je veux dire physiquement. C'est-à-dire qu'on peut dire que la vie, elle m'a quand même enlevé deux membres de mon corps. Donc elle m'a un peu défaite. Elle m'a, comme on défait une pelote de laine, si tu veux. C'est un peu dans ce sens-là que je voulais dire.
On va parler de votre dernier disque, Gérald Métrou, mais je vous propose d'en écouter un titre. J'ai choisi le quatrième qui s'intitule « Je cours ».
Jamais renoncé, j'ai jamais manqué de courage, j'ai toujours avancé, malgré les ombres et les barrages, j'ai encore essayé, les coups de sang, les coups de rage, j'ai pas pu m'empêcher, et j'ai manqué tant de virages, j'ai failli dérailler. Jamais vu la fin du voyage, jamais pu m'arrêter. Oh, tout ce que j'aime, tout, je n'ai pas vu passer. Oh, tout ce que j'aime. À côté, la vie, les gens, les paysages, oui, tout a défilé. Je rêve d'un arrêt sur image, tout juste un vent léger. C'est ta peau dorée sur la plage qui va me réveiller. Car tout ce que j'aime. Oui, tout, je l'ai pas vu passer. Oh, tout ce que j'aime, je cours, je sais pas écouter.
Belle chanson, écrite par vous, Gérald Métro, en collaboration avec Jérémy Kiesling. Dans les 11 titres de votre album, de votre nouvel album, transparaît beaucoup de douceur et d'apaisement. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'album de la maturité ?
De la maturité, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais plutôt que c'est l'album de la croissance, je dirais l'album de... comme un petit enfant qui grandit. Et puis maturité, ça veut dire qu'on arrive au sommet du truc. Et moi, je dis que dans la création, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Peut-être j'en referai d'autres de chansons, peut-être j'en referai pas, peut-être je ferai autre chose. Pour l'instant, pour moi, c'est vraiment ouvert. Mais c'est quand même un cycle que je voulais, un cycle de 3 albums que j'avais envie de faire. Et c'est un peu comme Pierre Assouline, il disait, quand vous avez écrit un livre, il faut attendre que les mots ils repoussent. Ben là, je dis, j'attends un peu que les mots ils repoussent. Comme quand on fauche un pré, ben après, il faut attendre un petit peu pour que les idées reviennent, qu'on apprenne d'autres choses, et puis qu'on ait d'autres choses, et qu'on ait d'autres choses à dire. Alors voilà.
Bon, en tout cas, moi, je l'ai écouté, cet album, et je dois dire que j'ai été séduite par ces musiques, et c'est des musiques qui nous accompagnent. Merci, en tout cas, d'avoir fait ce 3e album. On va rester un peu en musique, mais d'abord, Alex, vous avez envie de nous partager quelque chose ?
Alors, moi, j'étais passé à la radio il y a quelques années en arrière. J'ai fait une transition de genre. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, comme vous avez parlé avant, le regard des gens. Et ça a été un grand combat. Et je suis enfin arrivé, il y a quelques mois, à laisser ce regard derrière moi. Si j'ose le dire, m'en foutre de ce que les autres y pensent. Et puis être OK avec cette partie de moi-même. Et franchement, c'est vraiment libérateur de pouvoir vivre dans son corps, même j'ai modifié mon corps, mais ça reste mon corps et puis je l'aime comme il est. Et je suis vraiment soulagé d'avoir fait cette étape de vie. Et il y a Marine qui va interpréter une chanson. De base, ça devait être « If I Were a Boy ». C'est Beyoncé qui a écrit cette chanson. Ça veut dire en français « Si j'étais un garçon ». Et ça m'a beaucoup traversé pendant cette période. Mais vu qu'elle n'a pas appris encore les paroles, elle va interpréter « Allô » que j'aime beaucoup aussi. Et elle a une voix incroyable, donc vous allez apprécier.
Et je tiens à préciser que Alex m'a averti il y a 45 minutes que je devais absolument jouer et chanter If I Were a Boy.
Ah bah ça c'est la magie du direct. Marine, on vous écoute.
Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, and I'm having it hard to doubt. Standing in the light of your halo, I've got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you break it. It's a risk that I'm taking. I will never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by pray you won't. like a ray of sun, burning to my darkest night. You're the only one that I want, and I'm addicted to your light. I swear you'll never fall again, this don't even feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking, I will never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo, now you're my saving grace. You everything I need and more is written all over your face. Baby, I can see your halo, pray you won't fade away.
Bravo. C'était magnifique. Alex ?
Alors, c'était incroyable. Et j'aimerais faire une petite dédicace, enfin, avec cette douceur de cette chanson, à toutes les personnes qui m'ont apporté de la douceur dans ma transition, puis dans mon chemin de vie. Et puis, spécialement à Cécile, que je lui ferai écouter cette émission.
Oui, et merci à Pascal pour la superbe prise de son. Vous avez dit quelque chose de très joli, Alex. Vous avez dit se ficher du regard des autres. C'est quelque chose qui vous parle, Gérald Métro ?
Alors, c'est sûr que oui, ça, c'est un thème récurrent de ma vie. C'est quasiment un thème quotidien parce que depuis que je suis petit, depuis cet événement, lorsque j'avais 2 ans, moi, le regard des autres, bah, c'est sûr que c'est quelque chose avec lequel on doit vivre. Et quand Alex disait j'ai appris à me ficher du regard des autres, en fait j'ai constaté pour ma part, hein, peut-être c'est pas une vérité universelle, qu'en fait c'est un travail de tous les jours qui recommence tous les matins de se ficher du regard des autres, parce que c'est quelque chose auquel on est tous. Le regard des autres, c'est aussi l'opinion des autres. Le regard, c'est une image pour dire qu'en fait, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous allez regarder ses habits, vous allez regarder sa grandeur, vous allez regarder son visage, vous allez regarder, et vous allez émettre une opinion que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas. Donc en fait, se détacher et arrêter de donner du pouvoir au regard des autres, c'est un truc qu'on ne peut jamais dire qu'on a résolu complètement. Et en fait, c'est un travail qui recommence tous les jours.
Vous avez écrit aussi un livre, La vie d'en bas. Quelle signification ont pour vous les mots ?
Bon, les mots, c'est génial, parce qu'avec les mots, on peut tout faire. On peut dire, il y a des vilains mots, il y a des jolis mots, il y a des mots d'amour, il y a des mots de tendresse. Avec les mots, on peut tout faire. Et les mots sont très importants, parce que la façon dont on structure les mots, la façon dont on structure notre langage, c'est la façon dont on pense. Et lorsqu'on structure bien son langage avec des jolies choses, on pense des jolies choses. Parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas d'abord on pense et après on parle. Souvent on parle et après on pense, et c'est interactif, parce que la pensée influence le langage, mais le langage influence la pensée. Et plus on mieux on pense, mieux on pense. Et c'est pour ça que moi, je fais toujours attention. Quand je parle aux gens, j'essaye, j'arrive pas toujours, d'utiliser des bons mots ou des jolis mots. Parce que c'est tellement facile de dire des choses, des fois dures. Non, c'est pas facile de dire des choses dures, mais quand on les dit avec tendresse et avec délicatesse, même les choses dures, on peut les faire passer. Ou les choses difficiles à dire. Et c'est un exercice aussi de tous les jours, de tous les instants, parce que des fois on est fatigué, des fois on est un peu à cran, des fois on peut s'énerver, on est énervé, et des fois les mots, si on n'est pas discipliné dans nos façons de penser, les mots vont dépasser notre pensée. Et je trouve qu'il y a une relation tellement importante entre notre façon de penser et notre façon de parler. pour ça que vous me dites, est-ce que les mots, c'est important? Je dis, les mots, c'est pas important. C'est capital, pour moi, en tout cas.
Christelle, vous avez envie de dire quelque chose?
Ouais, je veux rebondir. Si je dis le mot assertivité, ça vous parle?
Le mot?
Assertivité.
Assertivité.
Assertivité. Au niveau de la communication. Communiquer de manière assertive.
Non, je connais pas.
C'est-à-dire, ça rejoint un peu ce que vous dites. C'est une manière de communiquer avec l'autre de façon à ce que ça soit vraiment, comment dire, ça rejoint un peu la communication non violente.
Ah, okay.
C'est, si j'aurais la définition,
asservir.
Non, bien. Assertivité.
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 C'est mon infirmière en psychiatrie, une petite dédicace à Luis Munoz qui m'a appris ça.
Alors peut-être Marine peut dire quelque
savoir
chose.
Savoir se positionner, voilà. Je passe à mon infirmière.
Non mais je suis pas sûre, mais je crois, si je me souviens bien, que c'est ça, c'est savoir se positionner et puis réussir à être clair en fait dans les propos qu'on tient et puis ne pas avoir peur du jugement des autres. Enfin,
il y a de ça aussi, et c'est aussi lié à la gestion émotionnelle. Après, il y a la théorie, il y a la pratique. C'est pas toujours simple. Comme il l'a dit, il a souligné, des fois, il y a des situations où c'est plus difficile que d'autres. Après, voilà. Après, je voulais aussi rajouter, moi, ce qui m'a beaucoup aidée quand j'étais enfant, c'est que je me suis réfugiée dans la lecture. Bon, ça m'a permis de survivre, et ça m'a aussi appris énormément de vocabulaire, donc voilà. Mais après, voilà, la gestion émotionnelle n'est pas facile.
Moi, je vous remercie, Christelle, parce que j'ai appris un nouveau mot, assertivité. Je pense qu'on est quelques-uns ici à avoir entendu pour la première fois ce mot. Les mots ont leur importance, on l'a dit. Et puis, autour de cette table, il y a une chroniqueuse qui utilise des mots en la personne d'Eliane. Et aujourd'hui, elle va nous partager la première partie d'une chronique en trois volets. Quel en est le thème, Eliane?
Il s'agit des animaux soigneurs.
Alors, on vous écoute.
Merci. Aujourd'hui, pourquoi ne pas partager avec vous le rôle des animaux soigneurs dans notre société, tels que le chat, le chien et le cheval? Pour l'heure, j'ai choisi de vous parler du chat soigneur, pas facile à dire. Le chat peut apporter bien plus qu'une simple compagnie. Il peut aussi être thérapeute, offrant une présence rassurante et apaisante qui réduit le stress, l'anxiété, le sentiment de solitude. Il peut inciter les propriétaires à bouger pour jouer avec eux. Il peut être bénéfique aussi pour la santé physique, notamment pour la tension artérielle, c'est-à-dire que le chat va venir sur une personne et le ronron émet des fréquences basses qui permet de réguler cette tension. Tous les chats ont une poche sous le ventre, appelée primordiale ou gousset, ou pli des onces. Il s'agit d'une poche élastique située au niveau de l'estomac qui leur permet de stocker des graisses et protéger ainsi leurs organes vitaux et faciliter leurs mouvements. Cette poche est commune à tous les félins. Particulièrement, je trouve qu'on remarque ça chez le tigre. Et pour ceux qui ont des chats, on se pose des fois la question, pourquoi, lorsqu'il se réveille, il court dans toute la maison, partout dans les coins, etc. En fait, j'ai appris par une éleveuse que c'est juste pour mettre en route sa musculature. Merci.
Merci à vous, Eliane. Gérald Métro, en fait, vous avez un chat en face de vous, Eliane, puisque c'est l'animal.
L'animal
de
Tannes, oui.
Exactement. Ça vous inspire, cette chronique?
Oui. C'est très intéressant parce que c'est la troisième fois cette semaine que quelqu'un me parle de chat.
Vous allez en prendre un.
Exactement.
Ah oui,
j'en ai tout le cas, lorsque j'étais petit, dans ma famille, on a toujours eu des chats. Ma mère.
D'accord.
Et moi, j'adorais les chats. J'adore les chats. Puis là, comme j'étais, la vie m'a amené à beaucoup voyager, à être pas beaucoup chez moi, à être sur les routes de France et de Navarre. Je prenais pas de chat parce que je pense que j'aurais trop mal au cœur de le laisser seul. Puis là, maintenant que je travaille moins et que j'ai plus de temps libre et que c'est une idée qui me passe, qui est en train de me finir de me séduire.
Au bout de 3 fois, c'est gagné. Un peu, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure.
Possiblement,
oui.
Mais alors j'ai lu un article qui disait voilà les 5 conditions. Si vous cochez une de ces 5 cases, vous ne devriez pas prendre de chat. Et une des cases, c'est est-ce que vous avez mal au cœur lorsque vous sortez de chez vous et que vous laissez votre chat seul. Et moi oui. Et ils disent, il ne faut pas prendre de chat dans ce temps-là. Parce qu'en plus, paraît-il qu'ils s'en foutent, les chats.
Complètement.
Passez-moi le terme. parce qu'eux, ils font leur petite vie, comme je disais tout à l'heure. Et puis, quand ils ont envie de dormir, quand ils ont envie de se faire caresser, ils viennent. Quand ils n'ont plus envie, ils se taillent, ils se barrent.
Ils sont très autonomes.
Exactement. Alors, voilà.
Ils sont très câlins. Effectivement, ils sont très autonomes. Donc, il n'y a pas de souci si vous vous absentez. Je pense que le chat va s'en remettre.
On dit toujours que pas plus d'une semaine. On peut laisser son chat, de la nourriture, différentes choses qu'il lui faut, l'eau, etc. Mais pas plus d'une semaine. Parce qu'au bout d'une semaine, il s'ennuie. Donc, ça vous laisse quand même pas mal de marge.
Oui, il y aurait de quoi faire.
Oui, Christelle.
Moi, j'en ai 2, donc j'ai trouvé la solution. Donc, ils s'ennuient jamais. Et c'est les meilleurs amis du monde, donc j'ai eu de la chance. Donc, voilà.
Et vous, Julien et Myriam, est-ce que vous avez des animaux ? Est-ce que vous aimez les animaux ?
Moi, j'adore les animaux. J'ai eu plusieurs fois des animaux, dont un chat il n'y a pas longtemps. On me l'a volé, donc maintenant, voilà. Et je voulais commencer la thérapie animale, mais c'est loin. Et c'est long le trajet pour aller jusqu'à là-bas.
Oui, Eliane ?
J'ai oublié de vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a un article dans le Nouvelliste, page 6, sur les animaux soigneurs. Mais par contre, c'est le chien et le cheval, donc j'en parlerai une autre fois.
C'est l'objet d'une prochaine chronique. Julien, éventuellement, par rapport aux animaux ?
Alors, par rapport au chat, c'est assez spécial, parce que j'ai une petite fille de 5 ans, et elle est amoureuse de tous les animaux de la planète. Et elle ne peut pas s'empêcher d'aller caresser, d'aller voir, d'aller vraiment... Alors, elle a un petit peu peur, sitôt qu'il bouge, mais ça fait 2 ans qu'elle me réclame un chat. Ou un chien. Et du moment que maintenant ma situation familiale a un petit peu changé, que je me retrouve seul à la maison, et c'est vrai que mon frère et ma soeur m'ont toujours dit « Mais toi, t'as toujours aimé les chats, il faudrait que tu te trouves un chat ». Et ça commence à me trotter dans la tête. Et
on va aller.
Vous allez au refuge ensemble.
Peut-être qu'on va aller ensemble faire une petite visite au refuge. Parce que, effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle. Et c'est peut-être un signe. C'est juste une réticence à une chose, c'est que la marraine de sa fille est allergique au chat. Et qu'elle ne peut plus venir à la maison s'il y a un chat. Et c'est un grand dilemme. S'il n'y avait pas ça, on en aurait déjà un, je pense. Donc, il faudra que je pèse le pour et le contre.
Oui, Eliane ?
Alors, c'est dommage qu'elle soit allergique au chat, parce qu'il existe des chevaux maintenant, exprès, pour les gens qui sont allergiques.
Des chevaux ?
Des chevaux,
ouais. Mais c'est plus gros.
C'est un peu plus gros pour mettre chez soi. Ah, ça va moins bien ?
Alors, j'ai une solution. C'est que j'ai un ami qui est allergique aux chats et ses enfants adorent les chats. Alors il a pris un chat sans poil. Ils existent, on en trouve assez facilement. C'est des chats qui n'ont pas de poil, qui coûtent d'ailleurs un bras parce que c'est des chats de race. Mm-hmm. Mais par contre, ça résout le problème des gens qui sont allergiques. Alors moi,
c'est moche.
Ah, mais quand on les aime, il y a bien des gens qui aiment les bulldogs français.
Qu'est-ce que vous avez contre les bulldogs français?
Ce que je voulais dire, je sais pas. Alors vous allez me contredire si c'est, je dis n'importe quoi. On m'a dit que lorsque on va dans un refuge, on croit que c'est nous qui choisissons les chats, mais en fait c'est les chats qui nous choisissent. C'est vrai ça?
Je pense que c'est pas faux. Parce que moi, je n'ai pas eu de chat pendant une année et demie. Puis je me suis dit, oh bon, ben, c'est une fois, j'en récupère un. Effectivement, j'ai récupéré un chat. Et il peut aller qu'avec moi, ce chat. Je veux dire, on a pas mal de caractère. Et il est très indépendant. Il aime, à part ses croquettes, il n'aime rien. Donc c'est assez facile. Pour le récompenser, il faut le caresser parce qu'il n'aime rien. Mais c'est vrai que c'est le chat qui nous choisit.
Mais je crois que c'est le propre de tous les animaux qui sont en refuge. Moi, je suis allée une fois dans un refuge et je suis tombée en amour d'un boxer, donc d'un chien. Et il n'y avait que lui. Il y avait d'autres chiens à côté, mais il n'y avait que lui. Et je pense que le chien ou le chat choisit la personne vers qui il a envie d'aller. Marine, vous aviez envie de dire quelque chose.
J'avais juste envie de rebondir au chat sans poil. Donc oui, les sphinx, c'est drôle parce que pour les chevaux, c'est complètement le contraire. En fait, ils s'appellent les curly parce qu'ils ont vraiment comme des espèces de cheveux bouclés comme ça, super longs. Et tout ça, c'est fait. Les chevaux hypoallergéniques. Donc,
tout à fait. Ouais. Il y en a deux qui habitent en bas de chez moi. Enfin, qui habitent. Excusez-moi. Ils n'ont pas la cuisine et tout, mais ils ont un parc. Et c'est justement, c'est là que j'ai su qu'il existait les chevaux pour quand t'es allergique, quoi, les gens qui sont allergiques. Mais le poil, c'est pas terrible, hein. Non, hein. Je crois que vous êtes assez d'accord.
C'est soit un chat à la peau de pêche, c'est très bizarre, ou soit un cheval avec plein de... vous pouvez choisir, je sais pas ce qui est le plus sain.
Cette émission a lieu quelques jours après la disparition du pape François. L'homme qui est allé à la périphérie, qui est allé à la rencontre de l'autre dans son absolu et sa différence. Ce ne serait pas là le résumé de la vie, l'absolu et la différence? Qu'en pensez-vous?
Alors, la différence, ça c'est sûr, parce qu'on est tous différents, mais en même temps c'est pour ça qu'on s'aime bien les uns les autres, parce que si on était tous uniformes et si tout le monde pensait la même chose, faisait les mêmes choses, le monde serait moins marrant sans doute. Beaucoup plus ennuyeux. On dit l'ennui naquit un jour de l'uniformité. Donc, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. L'absolu, qu'est-ce que ça veut dire l'absolu? C'est une grande question. Moi, je dirais plutôt, c'est la différence et l'indifférence. Parce que la différence, c'est exactement le contraire de l'amour. C'est un de ses grands contraires. Et ce qui fait le plus de mal, ce qui nous fait le plus de mal, et ce avec quoi on peut faire le plus de mal, c'est avec la différence, entre autres. Et peut-être que le monde, c'est Dieu et diable. Hein, le bien n'existerait pas sans le mal, donc, et etc. Donc, le monde... On est dans un monde de réalité complexe et pas de réalité binaire. C'est pas ou blanc ou noir, c'est pas vrai ou faux. C'est un peu vrai, un peu faux. Est-ce que c'est pas, c'est comme un, c'est comme dans une guerre, dans un conflit. Il n'y a pas un qui a tout raison et l'autre qui a tout tort. Et lorsque deux gens se disputent, tout le monde a un peu raison, mais tout le monde a un peu tort. Donc, je crois qu'il faut qu'on apprenne à vivre dans un monde de nuances, dans un monde complexe et pas un monde, comme je disais, binaire, avec des réalités complètement blanches ou noires.
D'où l'importance aussi d'aller dans les périphéries, comme de venir ici à Pavillon Nomade, de partager ce moment.
On est en périphérie de Monté.
On est en périphérie de Monté, on est en périphérie d'une vie peut-être binaire, et c'est tant mieux. Oui, Suzanne?
Vous ne croyez pas qu'on acquiert un peu, petit à petit, vous qui êtes à peu près mon âge, un peu de sagesse et qui aide aussi à avancer, un peu de la sagesse avec le temps.
Heureusement que le temps nous apprend des trucs, parce que sinon on répéterait les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes trucs. Alors, ce que je trouve, c'est que les expériences nous amènent un savoir, nous amène des connaissances. En même temps, moi, je trouve qu'il ne faut pas être trop sage, parce que c'est aussi rigolo, des fois, de ne pas être trop sage. Il faut garder le petit grain de folie, un petit peu, quand même. Le petit grain d'imprévu. Oui, la sagesse, c'est bien, mais moi, je trouve qu'il faut quand même qu'on apprenne à vivre avec la surprise, parce que notre vie, en fait, si vous la contemplez un peu avec du recul, elle est faite au quotidien que de surprises. Il y a des bonnes, il y a des moins bonnes, il y a des très bonnes, et il y a des très mauvaises. Mais il y a, la vie, c'est un parcours jalonné par les surprises.
Suzanne, vous voulez rebondir ?
Il faut être, faut pas être pris au dépourvu.
Mais si, justement, il faut se laisser prendre un peu au dépourvu, des fois.
Parce que des fois, on peut être déséquilibré.
Ouais, mais on peut pas tout contrôler non plus. C'est-à-dire qu'on peut, la vie, malheureusement, elle se laisse pas mettre dans une boîte comme ça. Puis on dit, voilà, c'est, ce sera toujours comme ça. Le lundi, c'est comme ça. Le mardi, c'est comme ça. Parce qu'un jour, il y a autre chose qui se produit. Puis si on est trop dans le contrôle, le jour où on est, quelque chose échappe à notre contrôle, on est complètement déstabilisé parce qu'on pensait pouvoir tout contrôler. Et en fait, des fois, il faut se dire qu'on contrôle pas grand-chose, qu'on essaye un petit peu de diriger le bateau à vue comme ça. Et puis, que de temps en temps, il y a la tempête, de temps en temps, il fait beau temps. Et puis, on verra demain.
Suzanne, avant
j'ai
de
juste
voir.
Une dernière question.
Julien, éventuellement.
Vous ne croyez pas qu'on peut, une fois arriver à poser ces rames ? Les rames, on rame dans la vie. Et un beau jour, on va poser les rames. Vous n'êtes pas d'accord ? Les poser une fois pour toutes ?
Peut-être pas une fois pour toutes. Hein.
Oui. Oui.
Pour se reposer.
Non, non, pour gagner.
Gagner quoi ?
Gagner le but vers lequel on va et se dire, eh ben, on rame jusqu'au but et après.
Moi, je pense que le moment intéressant quand on rame pour aller au but, c'est le moment où on rame. C'est-à-dire, en gros, c'est. Le but, oui, parce qu'on a toujours besoin d'avoir des objectifs. Quand on commence une journée, tiens, aujourd'hui, je vais faire un bon dîner. Alors, on va faire les courses, on s'organise. Et le plaisir, il est souvent dans l'action. Après, quand le dîner, il est fini, voilà. Mais c'était le chemin pour faire le dîner, pour aller en commission, pour sentir les bonnes odeurs et tout ça. Donc, en fait, s'arrêter, quand vous dites poser les rames, en fait, ça veut dire qu'on aura atteint tous les buts. Et moi, je pense que... C'est très difficile d'atteindre tous les buts, tout le temps.
Non, le principal but qu'on se fixe dans la vie. Moi, je me suis fixé qu'un seul but.
Ok.
Mais qui a duré des décennies. Puis je l'ai atteint. Donc je pose des rames.
Je disais tout à l'heure, tout le monde a tort et tout le monde a raison. Et tout le monde a raison, tout le monde a tort. Et tout le monde, votre vérité, elle est à vous. Comme votre vérité est à vous, comme là. Et puis elle nous appartient. Donc, si vous vous sentez confortable avec cette idée, il faut l'embrasser, cette idée.
Absolument. Julien, vous avez envie de rebondir un petit peu avec cette idée de vivre avec la surprise.
Oui. Je voulais pas trop prendre le micro parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup ces derniers temps. Moi, je suis une personne qui vivait beaucoup sur la surprise. Qui était assez ouvert, qui faisait beaucoup la fête. Et j'ai rencontré une personne qui était assez du même style. Et au fil des années, en fait, il s'est passé que la personne était jalouse, j'ai dû me calmer un petit peu, et j'ai dû un petit peu me perdre, entre parenthèses, pour pouvoir satisfaire l'autre, pour pouvoir un peu enlever les angoisses de l'autre. Et en fait, ce que je me suis... Ça me touche parce que Il y a eu beaucoup moins de moments de surprise. C'est parti sous le contrôle. Sous le contrôle de moi, sous le contrôle des choses. On a voulu construire une maison, j'ai géré la maison. On avait voulu un enfant, on a essayé de gérer ensemble. Je gérais pas mal quand même. Et en fait, je suis parti sur famille égale gérance. Pour le bien-être, pour une stabilité, pour un toit, pour pouvoir vivre, pour partir en vacances, pour que tout se passe bien, pas d'accroc, qu'il n'y ait pas de surprise, justement. Et en fait, je me rends compte peut-être maintenant, ça me parle tellement que je me rends compte que ce qui nous faisait vibrer, c'était les surprises. C'était le petit grain de folie qu'on avait. Même si l'autre peut-être était jalouse à ce moment-là, etc. Mais il y avait quelque chose qui attirait. Et du moment qu'on est sous le contrôle, je pense que on est beaucoup moins intéressant. Parce qu'on est, tout est calculé. Tout est beaucoup plus carré. Et on ne se laisse plus le droit de sortir du chemin. On ne se laisse plus le droit de faire des folies, de faire des conneries, qui sont en fait la vie. Et puis c'est ça qui rend... Les choses carrées que j'ai faites dans ma vie, je ne m'en souviens pas forcément. Mais par contre, toutes les conneries que j'ai faites, on en rigole. Et ça fait des années que je ne me suis plus autorisé à ça. Et j'ai vécu un échec dernièrement assez épuisant, qui me pèse encore maintenant. Et je pense que c'est une grande partie par rapport à ça. Par rapport à ce manque de surprise et de tout vouloir contrôler en pensant qu'il y avait un but. J'avais un but, justement. J'avais bien sûr ce que disait Suzanne, il faut avoir un but et puis se fixer et tout. Mais en fait, ça ne me parle pas du tout parce que mon but, il m'a porté à l'échec. Parce que j'étais fixé là-dessus. J'aurais dû le voir différemment. Alors, c'est une vision du but que j'avais qui était fausse. Parce que j'étais peut-être trop carré. Mais un but, oui, j'adore les buts. Il faut avoir des buts, il faut avoir des envies, il faut avoir des rêves. Mais peut-être, justement, pas être focalisé que sur cela, peut-être. Voilà.
Alors, c'est rigolo parce que moi, j'ai dans cet album, ce dernier album, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « C'est pas grave ». Et justement, ça parle de ça. Parce qu'en fait, plein de trucs qu'on a fait dans notre vie, des petites conneries, des gaffes, c'est jamais, il faut arriver à relativiser, à en rire ou en prendre ça un peu plus avec légèreté, parce que si on tombe dans la lourdeur et que tout devient grave, la vie elle devient vraiment ennuyeuse.
Alors c'est le titre qu'on va écouter parce qu'on arrive gentiment au terme de cette émission. Je vous donne encore la parole, Marine et Suzanne, pour quelques mots.
Quelques mots, juste rebondir. Ouais, merci beaucoup pour ce magnifique partage et aussi sur justement cette importance de laisser place à la surprise et à la spontanéité. Et encore une fois, j'aimerais communiquer ma reconnaissance de travailler à Malévaux, qui est un hôpital incroyable, justement parce que les bâtiments sont vieux, parce que c'est imparfait, parce que des fois c'est un peu le Bronx, on est d'accord, mais en même temps il y a ce quartier culturel au milieu. Alors j'aimerais vraiment remercier l'équipe du quartier socioculturel et toute l'équipe de la radio pour nous faire vivre des moments incroyables de partage. Voilà, moi je suis infirmière, mais je viens ici avec les gens que je côtoie en tant qu'infirmière dans l'unité, et à chaque fois c'est une surprise de découvrir la vie de ces personnes sous un autre angle. Et vraiment un grand merci pour tout ce que vous nous apportez, le quartier.
Suzanne, très brièvement.
Le but, quand il englobe un ensemble, pas seulement son propre but, mais quand il englobe un ensemble, je pense que c'est valable. Et ce but, il naît d'une... Comment dire, d'un besoin. Voilà. C'est un besoin d'atteindre ce but. Mais il y a tellement de choses qui interfèrent et il faut tout dépasser jusqu'à l'arrivée. C'est ça que je veux dire. Jusqu'à l'arrivée de la réalisation du but en la totalité.
Gérald, un dernier mot ?
Alors, moi, je dis que toutes les choses que j'ai écrites, c'est un paragraphe de mon livre où je parle de ça, justement. Et je dis que toutes les choses tous les buts qu'on a, toutes les choses qu'on réalise, elles ont toujours été rêvées en amont. C'est-à-dire, l'ingénieur Eiffel, il a rêvé de sa tour. Elle n'existait pas. Mais s'il ne l'avait pas rêvé, il ne l'aurait jamais faite. Donc tout ce que vous voyez, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans notre vie, tout ce qu'on réalise, tout ce qu'on voit qui se fait, qui se défait, tout a été rêvé en amont. Et c'est pour ça que c'est important que j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Et je rêve », parce qu'il faut toujours continuer à rêver.
On est au terme de cette émission. Je vous remercie toutes et tous autour de cette table d'avoir partagé cette heure, cette grande heure avec nous. Cette émission peut être écoutée, réécoutée à tout moment sur le site www.pavillonnomade.ch. Je remercie Pascal pour la prise de son. Et vous avez, enfin, j'ai cité Pascal Bruckner juste avant et je vais encore le citer avec ces mots qui résonnent, je trouve, un peu à ce que vous avez dit, Julien, à ce que vous avez partagé. Merci encore. La ligne mélodique de notre quotidien est une basse continue d'où surgissent quelquefois de bouleversants arias.
C'est toujours la même histoire qu'on aime se raconter. Dans le calme du soir, je vais vous la chanter. Un amour qui s'égare, deux âmes fatiguées, à trop chercher pourquoi, à tout vouloir expliquer. Alors elle est partie, sans jamais se retourner. À peine un cri, juste un baiser qui s'enfuit. Oh, c'est pas grave, faut continuer. Même dans la boue, même à genoux, juste avancer. On est toujours esclave de son passé. Pourquoi tu cours après l'amour sans respirer? C'est pas grave. Trop de mer à boire, trop de nuits à compter. Ce qu'il reste d'espoir, ce qui s'en est allé. Il a plongé dans le noir, sans trop savoir où aller. Peut-être apercevoir l'autre côté. Oh, c'est pas grave. Même dans la boue, même à genoux, juste avancer. Oh, c'est pas grave. C'est toujours la même histoire. Depuis des éternités, il y a toujours quelque part un miroir à traverser. Laisse faire le hasard, laisse tes larmes couler. Et dans le calme du soir, la vie peut recommencer. Oh, c'est pas grave, faut continuer. Même dans la foule, genoux juste avancés, on est toujours esclave de son passé. Pourquoi tu cours après l'amour sans respirer? Oh, c'est pas grave.